Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bonjour à tous. D'abord, les titres de ce journal. Commençons par cette bonne nouvelle. Il s'observe une nette diminution des nombres de décès liés à la maladie à virus Ebola dans la commune de Mongwalou, au nord de Bounia, dans le territoire de Djougou, l'un des principaux foyers de l'épidémie. Selon des sources médicales, cette évolution est principalement due à l'engagement des communautés locales dans le respect des mesures barrières. Plus de 1200 cas de violation des droits de l'homme, dont 54 cas de violences sexuelles, comptabilisés au cours du mois de mai en République démocratique du Congo. Les BCNUDH qui livrent ces chiffres tirent la sonnette d'alarme et soulignent que 80% de ces violations sont concentrées en Ituri et dans les deux Kivu. Environ 200 femmes ont bénéficié dimanche 19 juillet à Kinshasa d'une formation sur l'entrepreneuriat et l'éducation financière. Invitée de Radio Kapi, la présidente de la fondation Grâce à ma mère, Gram, Juline Souele, explique que cette session a voulu renforcer les connaissances des participantes ayant suivi des formations gratuites en coupe et couture, esthétique, maquillage et transformation agroalimentaire. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Ce journal part de l'Ituri où il s'est observé une baisse des décès liés à la maladie à virus Ebola dans la commune de Mongwalou à 85 km au nord de Bounia dans le territoire de Djougou, l'un des principaux foyers de l'épidémie. Selon des sources médicales, cette évolution est principalement due à l'engagement des communautés locales dans le respect des mesures barrières. Toutefois, à la périphérie de Mongwalou, des cas suspects et des décès communautaires continuent d'être enregistrés en raison notamment des difficultés d'accès liées au mauvais état de route et à l'insécurité causée par la présence de groupes armés. Reportage d'Isaac Remoyope depuis Mongwalou, rendu par Joyce Mansaka.
À Mongwalou, centre des dispositifs de lavage de mains sont installés devant les boutiques, les marchés et d'autres lieux publics. Le rassemblement populaire se fait de plus en plus rare. Ces changements traduisent une meilleure prise de conscience de la population face à cette épidémie qui a fait de nombreuses victimes, notamment dans les quartiers Chun 1 et Chun 2. Selon les sources médicales, aucune augmentation des décès n'a été enregistrée ni au centre de traitement Ebola, ni au sein de la communauté depuis plus d'une semaine. En revanche, la situation reste préoccupante dans les zones périphériques de Mongwalou. C'est notamment le cas dans les zones de santé des Damas où les équipes de riposte peinent à accéder aux populations à cause du mauvais état de route et de la réticence de certains habitants. Des inquiétudes persistent également dans le quartier Sayo ou les villages environnants où la présence des groupes armés complique les activités de sensibilisation et des ripostes. Des marchés sont toutefois en cours pour obtenir l'adhésion de ces groupes aux efforts de lutte contre Ebola. Par ailleurs, d'autres maladies prises en charge à Mongwalou proviennent de la zone de santé des Kilo, située à une trentaine de kilomètres.
Restons à Mongwalou où la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, est arrivée à la mi-journée. Principal foyer de l'épidémie de maladie à virus Ebola en Ituri. À son arrivée, elle s'est rendue au centre de traitement Ebola ainsi qu'à l'hôpital général de référence de Mongwalou. Au cours de cette visite, la chef du gouvernement a échangé avec les autorités politico-administratives, les équipes de riposte et les partenaires humanitaires. Cette mission vise à évaluer l'état de la riposte afin de renforcer les stratégies et les mesures destinées à mettre fin à l'épidémie. Grève des médecins au Maniema, les blouses blanches persistent et signent. Ils optent pour le format hôpitaux sans médecins en lieu et place d'un service minimum. Et ces médecins comptent cesser leur grève jusqu'à ce que le gouvernement va répondre à leurs revendications. Annonce faite par le secrétaire exécutif du syndicat national des médecins du Maniema, SINAMED, en sigle. C'était hier jeudi dans les chefs-lieux de la province à Kindu. Florence Kizalunga est passée à l'hôpital général de référence de Kindu. Elle nous propose ce reportage.
Dans ce grand hôpital provincial d'une capacité d'accueil de 240 lits, seul le médecin directeur et médecin chef de staff prennent soin du malade. Le médecin directeur, Dr Famba Ramazani, exprime son ras-le-bol.
C'est depuis le début du mois que la grève a été radicalisée et nous travaillons maintenant difficilement parce que dans la philosophie de la lettre des syndicalistes, il n'y a que le médecin directeur et le médecin chef de staff qui doivent travailler. Vous voyez, il y a un grand hôpital comme celui-là, qui reste avec deux médecins. Donc, nous travaillons difficilement à tel point qu'on est épuisé.
Du côté du syndicat national des médecins, pas question de reprendre les services avant d'être répondu. Docteur Marc Toutou est secrétaire exécutif du SINAMED Maniema.
La grève continue sous format hôpitaux sans médecins. Donc, au Maniema, la grève continue jusqu'à la concrétisation des engagements du gouvernement. C'est entre autres l'intégration de la paye complémentaire à la paye du mois de juillet et le paiement des arriérés des 4 mois de la paye complémentaire ainsi que l'alignement des 800 médecins par trimestre.
Vu cette situation, certaines personnes préfèrent aller se faire soigner dans les structures privées que publiques. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Je le disais en titre, plus de 1200 cas de violations des droits de l'homme, dont 59 cas de violences sexuelles, comptabilisés au cours du mois de mai en République démocratique du Congo. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, BCNIDH, tire la sonnette d'alarme et souligne que 80% de ces violations sont concentrées en Ituri et dans les deux Kivu. Dans son dernier rapport mensuel rendu public ce vendredi, le BCNIDH note une nette détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire sur les territoires nationaux au cours du mois de mai 2026. Les détails avec Ronéline Thibonera.
L'augmentation est brutale. Plus de 26% des violations et plus de 20% des victimes en un mois. En mai 2026, le BCNUDH a documenté au moins 881 violations de droits humains ayant touché près de 1200 personnes sur l'ensemble des territoires. Cette hausse s'explique principalement par l'intensification des violences dans l'est du pays. Le province du Nord, du Sud Kivu et de l'Ituri concentre à elle seule plus de 80% des exactions sous les coups des attaques des ADF, du 123 ou encore de la LRA. Sur le plan des violences sexuelles liées au conflit, les rapports comptabilisent 59 victimes, majoritairement des femmes et de jeunes filles. Si les chiffres globaux baissent par rapport à avril, les acteurs étatiques, principalement des militaires FARDC, sont désignés comme premiers responsables des près de la moitié de ces exactions devant le groupe armé. Toutefois, le BCNIDH salue la progression de la justice. Tenez, au cours du mois, 66 poursuites judiciaires ont été engagées contre des militaires, des policiers et des civils, aboutissant à près de 50 condamnations pour violences graves.
Au Nord Kivu, les chefs lieux du territoire de Masisi et ses environs se sont réveillés dans la peur ce vendredi après une nuit marquée par des échanges de tirs d'armes lourdes et légères. Selon des sources locales, des affrontements ont opposé depuis 23 heures les combattants Wazalendo aux rebelles de l'FCM23. Aucun bilan n'est encore disponible. Toutefois, des sources humanitaires signalent une paralysie des activités dans la zone. Les détails avec vous, Gloriane Lepeya.
Des tirs nourris ont été entendus de 23h jeudi jusqu'à l'aube ce vendredi à Masisi Centre et dans les villages voisins, rapportent des sources locales. Selon ces dernières, les affrontements auraient débuté à Boado, à plus de 5 km de Masisi Centre, avant de s'entendre vers les chefs-lieux du territoire. Le quartier Kani et Rona, ainsi que les alentours de l'hôpital général de référence de Masisi, ont été particulièrement affectés par les détonations. Certaines sources indiquent qu'une coalition de combattants Wazalendo auraient attaqué les positions de l'FCM23 à Boado. Les bilans restent difficiles à établir. En réaction, le rebelle aurait utilisé l'artillerie depuis leur position autour des Masisi Centre. De sources humanitaires évoquent toutefois des pertes humaines et les déplacements de plusieurs ménages vers l'hôpital général de référence des Masisi. La situation sécuritaire demeure préoccupante dans ces territoires depuis plusieurs mois, malgré les appels répétés au respect du cessez-le-feu.
Le président du bureau de l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami et son questeur ont démissionné de leur postes respectifs. Ils l'ont fait savoir ce jeudi dans des correspondances adressées au président du bureau d'âge. Si le premier a évoqué les raisons de convenance personnelle, l'autre a fait allusion au souci de rajeunissement de l'équipe pour le bon fonctionnement des institutions. À noter que ces deux membres du bureau étaient déjà visés par une pétition depuis le mois de mai dernier. Plusieurs motocyclistes de Matadi refusent désormais de payer la taxe conventionnelle de réhabilitation et d'entretien des routes. Ils dénoncent l'absence des retombées concrètes liées à cette contribution des 1000 francs congolais perçus dans les différents parkings de la ville. De son côté, la Direction générale des recettes du Congo central rappelle le caractère obligatoire de cette taxe et tente de rassurer les conducteurs sur son utilisation. Quelle est la situation sur le terrain, Élise Kavira?
Pour plusieurs motocyclistes, la TCRE reste une taxe aux retombées invisibles. C'est aussi l'avis de Jires Ndombe, motocycliste dans la ville.
Chaque jour, je paye le jeton, mais je ne sais pas où va cet argent, ni ce qu'ils en font.
En réponse aux multiples préoccupations des motards sur l'utilité de cette taxe, Nzao Boyango José, directeur des recettes non fiscales à la DGRKC, apporte des éclaircissements.
Quand on vérifie, ce sont des amis qui n'appartiennent à aucune association. Or, dans cette taxe, l'État rétrocède 9% aux associations. Des motocyclistes, alors on leur fait voir que pour qu'ils soient bénéficiaires de ce que l'État rétrocède, il faudrait qu'ils appartiennent à une des associations parmi les associations agréées.
Mais cet argument ne convainc pas tous les motocyclistes. Ngoma Paul, par exemple, affirme que les retombées de cette rétrocession ne profitent qu'aux responsables des associations.
Ce sont les présidents des associations qui bénéficient seuls de cet argent. Notre préoccupation est qu'on nous trouve au moins un hôpital où nous pourrions bénéficier d'une prise en charge médicale. Ainsi, nous profiterions nous aussi de cette rétrocession.
Face à ces réticences, la DGRKC a lancé une campagne de terrain pour sensibiliser les motards à rejoindre les associations et bénéficier de la rétrocession de la taxe des circulations routières. Matadi. Élise Kavira, Radio Okapi.
Les feuilles de manioc de plus en plus rares au marché de Mbujimayi, légumes pourtant très prisés par la population de cette ville du Kasaï oriental. À la base, la saison sèche explique les experts. Conséquence, les prix grimpent et les familles nombreuses, grandes consommatrices de ces légumes, peinent à s'en procurer. D'autres légumes comme les amarantes et les choux de Chine apparaissent à des prix plus abordables. Mais certaines ménagères restent méfiantes et estime que ces produits sont cultivés avec des engrais chimiques. Esther Dalafina pour le reportage.
Au marché central, les feuilles de manioc habituellement vendues en abondance deviennent un produit rare pendant cette saison sèche. Une vendeuse affirme parcourir de longues distances pour s'approvisionner.
Ces jours-ci, c'est vraiment difficile. On marche beaucoup pour trouver les feuilles de manioc. Les propriétaires des champs ont aussi augmenté des prix.
Cette rareté entraîne une hausse de prix. Un botte de feuilles de manioc qui se vendait à 500 francs se négocie désormais à 1000, parfois 1500 francs congolais. Même les restaurants peinent à en servir en quantité, signe que l'accès à ces légumes est devenu un véritable défi. Confirmation d'Alphonsine Tanga, responsable du restaurant Mama Alpho.
Pour le moment, l'effet de manioc ne se fait pas avoir. Un louche, nous vendons maintenant à 1000 francs. Avant, on vendait à 500 beaucoup. Il n'y a que des choux et des amarantes.
Face à cette situation, certains consommateurs se tournent vers les amarantes et les choux de Chine de plus en plus visibles et aux prix accessibles. D'autres ménagers par contre, déplore le fait que ces légumes sont parfois cultivés avec des engrais chimiques qui les rend moins rassurants pour la consommation quotidienne. Malgré sa rareté, plusieurs ménagères affirment que la feuille de manioc reste au cœur des habitudes alimentaires. Elle se mange au foufou, au riz, à la banane et au manioc. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
À Beni, dans le Nord Kivu, les rues de la ville accueillent depuis quelques semaines de nombreux enfants pendant les vacances scolaires. Certains passent de longues heures loin du cadre familial, une situation qui inquiète les acteurs de la protection des enfants alors que la région fait face à une épidémie d'Ebola. Reportage de Martial Papimoukeba.
Ils jouent, déambulent ou passent une grande partie de la journée dans les lieux publics de Beni. Pendant ces vacances scolaires, la présence d'enfants sans accompagnement dans les rues est devenue plus visible. Une situation qui préoccupe certains parents comme celui-ci.
Beaucoup d'enfants sont en train de circuler en ville de Beni sans savoir exactement où ils veulent aller. Et le fait pour eux de circuler les expose à plusieurs risques. c'est notamment le virus qui circule de façon silencieuse dans la ville. Il y a aussi les dangers en lien avec la circulation routière. En dehors de ça, les enfants sont également exposés au risque d'enlèvement, de kidnapping, au travail forcé, à l'exploitation aussi.
Pour Joël Kavuya, encadreur principal du Parlement d'Anfa de Beni Boutembo Lubero, cette situation nécessite une plus grande vigilance.
La protection de l'enfant commence d'abord dans la famille. Avec l'épidémie Ebola, il est important que les parents soient encore plus vigilants, qu'ils connaissent les déplacements de leurs enfants et qu'ils les accompagnent pendant cette période des vacances. Prudence exige.
Les vacances se poursuivent jusqu'à fin août avec un appel à mieux encadrer les enfants. Béni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Alors que le Washington Post a publié le 22 juillet un article intitulé « L'administration Trump étudie des options militaires au Mali », selon des responsables, un expert contacté par RFI estime que la possibilité d'une offensive militaire contre le groupe djihadiste Nîmes, qui a lancé en avril dernier une série d'attaques coordonnées avec les indépendantistes du FLA, reste assez limité. Il ajoute que si une action des États-Unis devait s'y concrétiser, ce serait plutôt probablement des frappes aériennes. Le ministre malien des Affaires étrangères a, lui, souligné n'avoir aucune information, aucune déclaration officielle des États-Unis ou d'officiels américains sur cette question.
L'invité.
Environ 200 femmes ont bénéficié dimanche 19 juillet à Kinshasa d'une formation sur l'entrepreneuriat et l'éducation financière. Invitée des Radio Capu, la présidente de la Fondation Grâce à ma mère Gram, Juline Suele, explique que cette session a voulu renforcer les connaissances de participantes ayant suivi des formations gratuites en coupe et couture, esthétique, maquillage et transformation agroalimentaire. Elle indique que ces femmes ont reçu des kits destinés à faciliter leur autonomisation socio-économique dans la société. Gilles Insuelé s'entretient avec Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour Madame Gilles Insuelé.
Bonjour Monsieur Blaise Ndongala.
La Fondation Grâce à ma mère a formé plus de 200 femmes et filles quinoises sur l'entrepreneuriat. Quelles ont été vos motivations?
Au niveau de la Fondation Grâce à ma mère, nous faisons la promotion de l'autonomisation économique de la femme congolaise. Mais pour parler de l'autonomisation, il faut entreprendre. À côté de l'entrepreneuriat, nous à la Fondation Grâce à ma mère, nous offrons des formations techniques, notamment la coupe et couture, l'esthétique générale, la coiffure, les make-up, la fabrication des jus, des gingembre, des chips et la transformation agroalimentaire pour permettre à ces femmes de commencer le micro-entrepreneuriat. Mais il ne suffit pas seulement de donner une formation technique où elles acquièrent des compétences, mais il faut associer à cette connaissance technique-là la gestion de ces micro-entreprises. Voilà pourquoi, à côté de cette formation des métiers techniques qu'on donne, on associe toujours la formation en entrepreneuriat et éducation financière. L'entrepreneuriat pour permettre à ces femmes de mieux connaître le rouage entrepreneurial, comment mieux gérer leur activité pour que ça ne reste pas une activité de survie, mais plutôt une activité portée à la croissance. Nous leur donnons les béaba de l'entrepreneuriat, notamment les calculs du capital, des recettes, les marges, les charges, comment équilibrer les charges pour que l'entreprise puisse être croissante au fait. Parce que l'idée, c'est commencer petit, mais pour grandir dans les années à venir, d'où la bonne gestion.
Quels ont été les critères de choix des bénéficiaires de ces différentes formations?
La Fondation Grâce à ma mère est là pour relever la femme. Que ça soit une femme désœuvrée, que ça soit une femme active, que ça soit une femme en cessation d'activité ou une femme chômeur. Notre objectif, c'est pousser la femme à devenir autonome. Donc, il n'y a pas de critères aussi contraignants pour la femme. Les conditions pour bénéficier de nos formations, il faut d'abord être une femme adulte, être majeure à partir des 18 ans révolus, avoir étudié ou pas, ça ne nous pose pas un problème parce qu'on donne l'opportunité à celles qui n'ont pas eu la chance d'aller peut-être loin dans les études ou celles qui ont étudié mais qui sont au chômage ou d'autres femmes qui sont au ménage. Donc, nous, notre condition, c'est juste être adulte, à partir des 18 ans, remplir votre fiche d'adhésion pour devenir membre à la Fondation Grâce à ma mère et être disponible, parce que généralement les formations, c'est des formations de 2 à 4 mois, être disponible pour participer aux formations métiers.
Bénéficiez-vous de l'appui de quelques partenaires dans la réalisation de toutes vos actions?
En 5 années d'existence, nous travaillons sur fonds propres, mais cependant, on a quelques partenaires potentiels qui, de temps en temps, nous appuient, notamment avec la remise des kits qu'on offre aux femmes, parce qu'effectivement, comme je l'ai dit, les formations que nous donnons sont 100% gratuites. Les bénéficiaires viennent juste elles-mêmes et puis elles trouvent tout sur les sites des formations, tout le matériel des formations. Et à la fin de cette formation-là, nous leur remettons des kits AGR, qu'on appelle les kits des activités génératrices de revenus. Ce sont des matériels, des équipements pour leur permettre de commencer une activité. Donc, pour obtenir ces équipements-là, nous sollicitons quelques partenaires qui, de manière ponctuelle, nous assistent. Par là, j'annonce déjà pour ce mercredi 29 juillet 2026, au Pullman Grand Hôtel, nous aurons la cérémonie de remise des 8 à ces 200 femmes qui ont bénéficié de ces formations-là. Et pour ça, nous avons eu l'appui des Fonds des Nations Unies pour la population, l'UNFPA, qui a accepté de contribuer avec l'acquisition de certains lots. On a des femmes en coupé couture. Il y a Vlisco aussi qui a accepté d'accompagner quelques femmes dans la réalisation ou dans l'acquisition d'équipes.
Madame Julie Suélé, nous vous disons merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Je vous remercie, Monsieur Blaise, pour cet entretien.
Comme vous l'avez suivi, c'était notre invité, Madame Julie Suélé, qui s'entretenait avec Blaise Ndongala Mayanda. Voilà qui met fin à ce journal parlé de la mi-journée, préparé pour vous par Jean-Désiré Kanyama et Lévin Mbouingavoubo. La mise en onde était assurée par Alain Goy. Ce journal est à suivre sur notre page TikTok et à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net.